Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 pour le Théâtre de la Gamelle, votre émission hebdomadaire de théâtre radiophonique tous les vendredis de 13h à 14h. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020. En ces temps bien, bien délicats que nous traversons, nous tentons de garder notre cap, notre objectif, celui de vous accompagner, de faire travailler cette chose qui nous distingue des autres espèces vivantes, ce petit espace de liberté qui nous reste encore, celui de notre imagination. Je suis Eva Natalia et je vous ai préparé cette émission avec un désir de voyage dans le temps, dans l'espace, dans les méandres de notre culture. J'avais envie d'amour, de création, d'effervescence. J'ai choisi pour cela de vous lire des extraits du livre « Just Kids » de Patti Smith. Cette grande dame pour qui le pouvoir est au peuple et la nuit appartient aux amoureux nous emmène dans un tourbillon de poésie, de ferveur entremêlée de sagesse à chacune de ses prises de parole. Elle est née en 1946 à Chicago. C'est une poète, écrivaine, autrice, compositrice de musique et photographe engagée. Considérée comme la marraine du mouvement punk, elle a voyagé dans les décennies avec tout son art et nous apporte à chaque fois un témoignage poignant de chaque époque à travers ses œuvres. Dans Just Kids, elle nous raconte sa grande histoire d'amour avec Robert Mapplethorpe, photographe américain également né en 1946, témoin privilégié de la scène culturelle new-yorkaise des années 70 et 80. À travers leur couple, nous devenons témoins de l'essence de leur créativité. Patti Smith rend la promesse qu'elle avait faite à Robert Mapplethorpe peu avant son décès, poursuivre leur collaboration en racontant leur histoire. Le calendrier joue parfois avec nos symboliques. Il y a un an, le 27 novembre 2019, je disais moi-même au revoir à une personne très importante dans ma vie, à mon grand-père. Il m'a donné le goût des histoires. Je pouvais l'écouter des heures nous raconter d'où nous venions et toutes les anecdotes qu'il avait vécues. C'est donc avec grande tendresse que j'ai choisi de vous lire une histoire pleine de savoureux moments. Cette émission est enregistrée en confinement. Donc vous m'excuserez s'il y a certains petits bugs techniques qui viennent déranger ce moment, je fais avec les moyens du bord. Le texte étant très dense, j'ai dû effectuer de nombreuses coupes. J'ai également dû séparer la lecture en deux parties. Nous ne partagerons que la première partie aujourd'hui, la suite viendra sur une prochaine émission, au trimestre prochain. Dans cette première partie, nous allons découvrir nos protagonistes avant et au début de leur histoire. Dans la deuxième partie, qui sera lue ultérieurement, nous irons au Chelsea Hotel et dans le cœur de leur histoire d'amour et de création. Je ne vous en raconte pas plus et laisse place aux mots de Patti Smith. Belle écoute à vous. On a dit beaucoup de choses sur Robert et on en dira encore. Des jeunes hommes adopteront sa démarche. Des jeunes filles revêtiront des robes blanches pour pleurer ses boucles. Il sera condamné et adoré. Ses excès seront maudits ou parés de romantisme. À la fin, c'est dans son œuvre, corps matériel de l'artiste, que l'on trouvera la vérité. Elle ne s'effacera pas. Je dormais lorsqu'il est mort. J'avais appelé l'hôpital pour dire bonne nuit une dernière fois, mais il avait sombré sous des couches de morphine. J'ai pressé le récepteur contre mon oreille pour écouter sa respiration laborieuse à travers le téléphone, sachant que je ne l'entendrai plus jamais. Lentement, j'ai monté l'escalier en comptant les 14 marches l'une après l'autre. J'ai remonté la couverture de la petite dans son berceau, embrassé mon fils endormi, puis je me suis allongée près de mon mari et j'ai dit mes prières. « Il est toujours vivant », ai-je murmuré, je me rappelle. Je me suis endormie. Je me suis réveillée tôt et en descendant l'escalier, j'ai su qu'il était mort. Tout était calme à l'exception du bruit de la télévision resté allumé toute la nuit sur une chaîne culturelle. Il passait un opéra. La scène où Tosca acclame avec force et chagrin sa passion pour le peintre Cavaradossi m'a attirée vers l'écran. C'était une froide matinée de mars. J'ai mis mon pull. J'ai levé les stores et la lumière du jour a inondé le bureau. J'ai lissé le tissu lourd qui drapait ma chaise et choisi un livre de peinture d'Odilon Redon que j'ai ouvert sur l'image d'une tête de femme flottant sur une petite étendue d'eau, les yeux clos. Un univers pas encore abîmé contenu sous les paupières pâles. Le téléphone a sonné. Je me suis levée pour répondre. C'était Edouard, le frère cadet de Robert. Il m'a dit qu'il avait donné un dernier baiser à Robert pour moi, comme il me l'avait promis. Je suis restée inerte, figée, puis lentement, comme dans un rêve, je suis retournée à ma chaise. À cet instant, Tosca a commencé la sublime aria Vici d'Arte. J'ai vécu pour l'amour, j'ai vécu pour l'art. J'ai fermé les yeux et joint les mains. La Providence décidait des termes de mon adieu. Quand j'étais toute petite, ma mère m'emmenait en promenade à Humboldt Park, le long des berges de la rivière Prairie. Je garde le souvenir vague, comme des impressions sur des plaques de verre, d'un grand hangar à bateaux, d'un kiosque à musique, d'un pont à arches de pierre. Le goulet de la rivière se vidait dans une vaste lagune. J'ai vu, à sa surface, un curieux miracle. Un long cou incurvé jaillissait d'une robe de plumes blanches. L'animal fit clapoter l'eau claire, battre ses ailes gigantesques et s'éleva dans le ciel. Cygne, dit ma mère qui sentait mon excitation. Mais le mot était loin de suffire à rendre compte de sa magnificence ou à transmettre l'émotion qu'il produisait en moi. La vision de l'oiseau créait un besoin pressant pour lequel je n'avais pas de mots. Un désir de parler du cygne, de dire quelque chose de sa blancheur, de la nature explosive de son mouvement et du lent battement de ses ailes. Le cygne ne fit plus qu'un avec le ciel. Je peinais à trouver les mots pour décrire la perception que j'en avais. « Cygne !» répétai-je, pas pleinement satisfaite. Et je ressentis un tiraillement, une étrange nostalgie imperceptible aux passants, à ma mère, aux arbres ou aux nuages. Je suis née un lundi dans les quartiers nord de Chicago, pendant le grand blizzard de 1946. Je suis arrivée un jour trop tôt, dans la mesure où les bébés nés à la Saint-Sylvestre quittaient l'hôpital avec un réfrigérateur neuf. Malgré tous ses efforts pour me retenir encore un peu, le taxi en était encore à se frayer un chemin le long du lac Michigan à travers un tourbillon de neige et de vent quand ma mère est entrée en phase de travail intensive. À en croire mon père, j'étais à mes premiers instants une longue chose toute maigre, affligée de bronchiopneumonie et il m'a maintenue en vie en me tenant au-dessus d'une bassine fumante. Ma mère m'a appris à prier. Elle m'a enseigné la prière que sa mère lui avait apprise. Maintenant que je vais dormir, que le Seigneur veille sur mon âme. À la tombée de la nuit, je m'agenouillais devant mon petit lit et debout, derrière moi, elle m'écoutait réciter après elle avec son éternelle cigarette. Je ne désirais rien tant que de dire mes prières, mais ces mots me troublaient et je la harcelais de questions. Mais qu'est-ce que l'âme ? De quelle couleur est-elle ? Je craignais que mon âme ne me fasse le tour pendable de s'échapper pendant mon sommeil et de ne jamais revenir. Je faisais de mon mieux pour ne pas m'endormir afin de la garder à sa place, à l'intérieur de moi.
Guère satisfaite de ma prière enfantine, j'implorais bientôt ma mère de me laisser composer la mienne propre. Je fus soulagée de n'être plus obligée de répéter les mots « Si je meurs avant mon réveil, je prie Dieu de prendre mon âme » et de pouvoir dire à la place ce que j'avais dans le cœur. Ainsi libérée, j'ai employé toute ma vigueur à articuler sans bruit de longues lettres à Dieu, allongée dans mon lit près du poêle à charbon. Mon mince torrent de mots se dissipa en un sentiment complexe de flux et de reflux. C'était mon entrée dans la splendeur de l'imagination. Mon amour des livres vint peu à peu concurrencer mon amour de la prière. Assise au pied de ma mère, je la regardais boire du café et fumer un livre sur les genoux. Sa concentration m'intriguait. Bien que n'allant pas encore à la maternelle, j'aimais regarder ses livres, palper leurs pages et soulever le papier de soie qui protégeait leur frontispice. Je voulais savoir ce qu'il y avait dedans, ce qui retenait ainsi l'intention de ma mère. Lorsqu'elle découvrit que j'avais caché son exemplaire rouge sombre du livre des martyrs de Fox sous mon oreiller dans l'espoir d'absorber sa signification, elle me fit asseoir à une table et s'attela à la tâche laborieuse de m'apprendre à lire. Avec un effort considérable, nous sommes passés des contes de ma mère Loi au docteur Seuss. Lorsque j'ai suffisamment progressé pour me débrouiller toute seule, j'ai eu la permission de m'asseoir à côté d'elle sur notre canapé rembourré. Elle lisait les souliers de Saint-Pierre, je lisais les souliers rouges. J'étais une enfant rêveuse, quelque peu somnambule. J'agaçais mes professeurs avec mon don précoce pour la lecture, doublé d'une incapacité à l'appliquer à tout ce qu'ils estimaient pratique. L'un après l'autre, ils notaient sur mes bulletins que je rêvassais beaucoup trop, que je semblais toujours ailleurs. Où était-ce cet ailleurs ? Je ne saurais le dire. Qui m'a souvent valu de me retrouver au coin. Robert adorait écouter des histoires de mon enfance. Mais lorsque je le questionnais sur la sienne, il n'avait pas grand-chose à raconter. Il disait que dans sa famille, on ne parlait ni ne lisait beaucoup. Et on ne partageait pas ses émotions les plus intimes. Il n'avait pas de mythologie commune, pas d'histoire de trahison, de trésor et de forteresse de neige. C'était une existence protégée, mais elle n'avait rien d'un conte de fées. « Ma famille, c'est toi », disait-il. À l'adolescence, les ennuis ont commencé pour moi. En 1966, à la fin de l'été, j'ai couché avec un garçon encore plus novice que moi et je suis tombée immédiatement enceinte. J'ai consulté un médecin qui n'a pas pris mon inquiétude au sérieux et m'a renvoyée dans mes foyers avec un petit sermon un peu embarrassé sur le cycle féminin. Mais au fil des semaines, j'ai acquis la certitude que je portais un enfant. J'ai grandi à une époque où le sexe et le mariage étaient absolument synonymes. Aucune contraception n'était disponible et à l'âge de 19 ans, j'avais encore une vision très naïve du sexe. Notre union avait été tellement fugace, tellement tendre que je n'étais pas complètement certaine que nous avions consommé notre affection. Mais la nature, dans toute sa puissance, allait avoir le dernier mot. L'ironie voulait que ce soit moi, qui n'avais jamais voulu être une fille, jamais voulu grandir, qui me retrouve confrontée à cette épreuve. Cela ne m'a pas échappé. La nature me donnait une leçon d'humilité. Le garçon, qui n'avait que 17 ans, était tellement inexpérimenté que je pouvais guère lui demander de prendre ses responsabilités. C'est seul que j'allais devoir prendre les choses en main. Le matin de Thanksgiving, je m'assis sur le lit de camp de la buanderie de mes parents. Je suis restée assise un long moment, contemplant mes mains posées sur mon ventre. J'avais déchargé le garçon de sa responsabilité. Il était semblable à un papillon de nuit qui se débat avec son cocon, et je n'avais pas eu le courage de déranger sa laborieuse éclosion dans le monde. Je savais qu'il ne pouvait rien y faire. Je savais également que j'étais incapable de m'occuper d'un nourrisson. J'avais demandé de l'aide à un professeur compréhensif qui avait trouvé un couple de gens instruits. En mal d'enfant. J'ai été renvoyée de la fac, mais peu m'importait désormais. Je savais que je n'étais pas destinée à être institutrice, même si c'était une profession admirable à mes yeux. J'ai continué à vivre dans ma buanderie. Tous les dimanches, je faisais une longue promenade jusqu'à un café de plage désert pour prendre un café et un beignet à la confiture. Deux choses prohibées dans une maison qui avait le bio pour credo. Je savourais ces petites gâteries, glissais une pièce de 25 cents dans la fente du jukebox et écoutais Strawberry Fields trois fois de suite. C'était mon rituel secret. Les mots et la voix de John Lennon me donnaient de la force quand je réfléchissais. Après les vacances de Pâques, mes parents sont venus me chercher. Le début du travail a coïncidé avec la pleine lune. Ils m'ont conduite à l'hôpital de Camden. Comme je n'étais pas mariée, les infirmières se sont montrées cruelles et insensibles et m'ont laissée sur une table pendant plusieurs heures avant de prévenir le médecin que j'étais entrée en phase de travail. Elles ont raillé méchamment mon look beatnik et ma conduite immorale, m'ont surnommée la fille de Dracula et ont menacé de couper mes longs cheveux noirs. Lorsqu'il est arrivé, le médecin a piqué une colère. Je l'ai entendu crier aux infirmières que l'enfant se présentait par le siège et qu'elle n'aurait pas dû me laisser seule. Par une nouvelle fenêtre, pendant le travail, j'ai entendu des garçons qui chantaient des chansons a cappella dans la nuit. Harmonie à quatre voix dans les rues de Camden, New Jersey. Puis l'anesthésie a commencé à faire effet. La dernière chose dont je me souviens, c'est le visage inquiet du médecin et les murmures des garçons de salle. Mon enfant est né le jour de l'anniversaire du bombardement de Guernica. Je me souviens que j'ai pensé au tableau, une mère qui pleure son bébé mort dans les bras. Même si mes bras étaient vides, même si je pleurais, mon enfant allait vivre. Il était en pleine santé, il ne manquerait de rien. J'en étais absolument certaine. Le même jour à Brooklyn, Robert gobait de l'acide. Il se dégagea un espace de travail, installa son carnet à dessin et ses crayons sur une table basse et un oreiller devant pour s'asseoir. Il plaça une feuille de carte à gratter vierge sur la table. Il savait qu'il ne serait peut-être pas en état de dessiner une fois que l'acide ferait effet, mais il voulait avoir ses outils à portée de main au cas où. Il avait déjà essayé de travailler sous acide, mais la drogue l'a tiré vers des espaces négatifs qu'il avait en temps normal le sang-froid d'éviter. Souvent, la beauté qu'il croyait voir n'était qu'un trompe-l'œil. Les résultats s'avéraient criards et déplaisants. Il n'y recherchait pas de signification particulière. C'était comme ça, c'est tout. Au début, le LSD lui sembla presque sans effet. Et il fut déçu, car il en avait absorbé davantage qu'à l'accoutumée. Il était passé par la phase d'anticipation et d'agitation nerveuse. Il adorait cette sensation. Il suivait le frisson et la peur qui fleurissaient dans son ventre. C'était la même sensation que celle qu'il éprouvait lorsque, enfant de cœur, il se tenait derrière les rideaux de velours dans sa petite aube, la croix processionnelle entre les mains se préparant à défiler. L'idée lui traversa l'esprit que rien n'allait se produire. Il rajusta un cadre doré au-dessus du manteau de sa cheminée. Il remarqua alors le sang qui parcourait les veines à l'intérieur de son poignet et l'éclat du rebord de sa chemise. Il se mit à voir la chambre en plans séparés, des sirènes et des chiens, le pouls battant des murs. Il s'aperçut soudain qu'il avait la mâchoire serrée. Il remarqua sa propre respiration qui ressemblait à celle d'un dieu qui s'écroule. Une terrible lucidité s'abattit sur lui, une force saccadée qui le précipita à genoux. Un fil de souvenirs qui saignait avec sa propre solitude, l'apocalypse de son monde, s'étira devant lui comme un caramel mou. Les visages accusateurs des autres élèves officiers, de l'eau bénite qui faisait déborder les latrines, ses camarades de classe qui se déplaçaient comme des chiens indifférents, la désapprobation de son père, l'expulsion de l'école des officiers et les larmes de sa mère. Il essaya de se lever. Ses jambes étaient complètement engourdies. Il parvint à se mettre debout et se frotta les mollets. Les veines de ses mains étaient anormalement saillantes. Il enleva sa chemise trempée de lumière et de sueur, se dépouillant de la prison de ses chairs. Il baissa les yeux sur la feuille de papier. Il y voyait l'œuvre, bien qu'elle ne fût pas encore dessinée. Il s'accroupit de nouveau et travailla d'une main assurée dans les dernières lueurs de l'après-midi. Il termina deux dessins en pâte de mouche informe. Il écrivit les mots dont il avait eu la vision, comprit intimement la gravité de ce qu'il avait écrit. Destruction de l'univers, 30 mai 67. C'est bien, se dit-il avec un léger regret, car personne ne verrait ici ce qu'il avait vu. Personne ne comprendrait. Il était habitué à ce sentiment. Il avait ressenti toute sa vie, mais autrefois, il essayait de compenser comme si c'était sa faute. Il contrebalançait ce décalage avec un caractère très doux, recherchait l'assentiment de son père, de ses professeurs, de ses camarades. Il ne savait pas trop s'il était bon ou mauvais, s'il était altruiste, s'il était démoniaque, mais il y a une chose dont il était certain, c'était d'être artiste. Et pour ça, il ne s'excuserait jamais. Il s'appuya contre un mur et fuma une cigarette. Il se sentait baigné de clarté, un peu secoué, mais il savait que c'était seulement physique. Une autre sensation était en gestation, pour laquelle il n'avait pas de nom. Il se sentait seul maître à bord. Il ne serait plus un esclave. Je suis partie un lundi matin, le 3 juillet 1967. Je me suis arrachée aux adieux et pleurée, et j'ai parcouru à pied le kilomètre et demi qui me séparait de Woodbury. Là, j'ai pris le bus Broadway jusqu'à Philadelphie. C'est le cœur serré que j'abandonnais cette ville à ses difficultés. Mais il n'y avait pas de travail pour moi ici. On fermait le grand chantier naval et bientôt tout le monde allait se retrouver au chômage. J'ai eu un sacré choc en découvrant que le prix du billet pour New York avait presque doublé depuis la dernière fois que j'avais voyagé. Je ne pouvais pas me le payer. Je suis allée dans une cabine téléphonique pour réfléchir, et telle une Clark Kent en jupon, j'ai été sacrément bien inspirée. J'ai manqué appeler ma sœur, mais j'avais trop honte pour rentrer à la maison. Or là, posée sur la tablette en dessous du téléphone, sur un épais volume de pages jaunes, il y avait un sac à main blanc, bien en évidence. Il contenait un médaillon et 32 dollars, presque une semaine de salaire à mon dernier boulot. Malgré moi, j'ai pris l'argent et déposé le sac au guichet dans l'espoir que sa propriétaire récupère au moins le médaillon. Il n'y avait rien qui révélait son identité. Je ne peux que remercier, comme je l'ai bien souvent fait intérieurement, toutes ces années durant, cette bienfaitrice inconnue. C'est elle qui m'a porté l'ultime encouragement, le porte-bonheur de la voleuse. J'ai accepté le don du petit 5 à Mac blanc comme si c'était le doigt du destin qui me poussait en avant. J'avais 20 ans quand je suis montée dans le bus. Je portais ma salopette, un col roulé noir et le vieil imper gris que j'avais acheté à Camden. Ma petite valise écossaise rouge et jaune contenait quelques crayons de couleur, un carnet des illuminations, quelques fringues et des photos de mon frère et de mes sœurs. J'étais superstitieuse. Nous étions un lundi, j'étais née un lundi. C'était un bon jour pour arriver à New York City. Personne ne m'attendait. Tout m'attendait. J'espérais que mes amis pourraient m'héberger le temps que je me trouve un endroit à moi. Je suis allée frapper à une brownstone à l'adresse que j'avais, mais ils avaient déménagé. Le nouveau locataire était un garçon poli, il m'a désigné une chambre au fond de l'appartement. Son colocataire connaîtrait peut-être la nouvelle adresse. Je suis entrée dans la pièce. Sur un lit en métal très simple, un garçon était couché, pâle et mince, avec des masses de boucles brunes. Il dormait torse nu, des colliers de perles autour du cou. J'ai attendu. Il a ouvert des yeux et sourit. Quand je lui ai expliqué ma situation, il s'est levé d'un bond, a enfilé ses sandales mexicaines et un t-shirt blanc et m'a fait signe de le suivre. Je l'ai observé qui marchait devant moi, me guidant d'un pas léger, les jambes légèrement acrées. Comme il tambourinait sur ses cuisses avec les doigts, j'ai remarqué ses mains. Je n'avais jamais vu personne qui lui ressemble. Il m'a déposé devant une autre brownstone sur Clinton Avenue. Il m'a fait un petit salut, il a souri et il est reparti. La journée est passée. En définitive, mes amis ne sont pas rentrés. Cette nuit-là, n'ayant nulle part où aller, je me suis endormie sur le perron de leur brique rouge. Je marchais pendant des heures d'un parc à l'autre. À Washington Square, on pouvait encore sentir les personnages d'Henry James et la présence de l'auteur lui-même. En passant sous l'arc blanc, on était accueillis par le joyeux brouhaha des bons gros et des guitares acoustiques, des protest singers, des débats politiques, des activistes qui distribuaient des tracts, des vieux joueurs d'échecs qui se faisaient défier par les plus jeunes. Cette atmosphère d'ouverture, je ne l'avais jamais connue. Une liberté simple qui ne semblait peser sur quiconque. J'étais exténuée, affamée, je traînais avec mes quelques affaires enveloppées dans un tissu, comme un vagabond. Il ne me manquait que le bâton. J'avais déposé ma valise à Brooklyn. Je ne peux pas dire que j'étais comme un poisson dans l'eau, mais je me sentais en sécurité. Personne ne faisait attention à moi. Je pouvais me déplacer librement. Il y avait une communauté errante de jeunes gens qui dormaient dans les parcs, dans les tentes de fortune, les nouveaux immigrants qui envahissaient l'East Village. Je n'étais pas comme eux, mais à cause de cette atmosphère de dérive joyeuse, je pouvais vagabonder à ma guise. J'avais la foi. Je ne percevais aucun danger dans la ville et je n'en avais jamais rencontré aucun. Je n'avais rien à offrir aux voleurs et je ne craignais pas les rôdeurs. Je ne présentais aucun intérêt pour quiconque. Et ça a joué en ma faveur pendant ces premières semaines de juillet passées à zoner dans les rues, libre de poursuivre mes explorations le jour, dormant où je pouvais la nuit. Je recherchais les cages d'escalier, les wagons de métro, même un cimetière. Je me réveillais en sursaut sous le ciel urbain ou secoué par une main inconnue. Il est temps de circuler maintenant. Il est temps de circuler maintenant. C'est l'été où j'ai rencontré Robert Mapplethorpe. Il me fallait un boulot. J'ai été soulagée quand j'ai été engagée comme caissière dans la succursale de Brenatos qui se trouvait au nord de Manhattan. J'aurais préféré m'occuper du rayon poésie qu'enregistrer les ventes de bijoux et d'artisanat ethnique, mais j'aimais bien regarder les amulettes venues de pays lointains, bracelets berbères, colliers de coquillages d'Afghanistan et un Bouddha incrusté de pierre. Mon objet préféré, c'était un modeste collier de Perse. Il était fait de deux plaques de métal émaillées, reliées par de lourds fils noirs et argentés, comme un très ancien et exotique scapulaire. Il coûtait 18 dollars, une fortune à l'époque. Pendant des heures, je le sortais de son étui, je le suivais du doigt la calligraphie gravée sur sa surface violette et je m'inventais des histoires sur son origine. Peu après que j'ai commencé à travailler là, le garçon que j'avais brièvement rencontré à Brooklyn est entré dans le magasin. Avec sa chemise blanche et sa cravate, il était métamorphosé. On aurait dit un écolier catholique. Il m'a expliqué qu'il travaillait à la librairie Brentantos, située downtown, qu'il avait un avoir et qu'il voulait l'utiliser. Il a passé un long moment à examiner tous les objets, les perles, les petites figurines, les bagues de turquoise. « Je vais prendre ça », a-t-il enfin décrété. C'était le collier persan. « Oh, moi aussi, c'est mon préféré. Il me fait penser à un scapulaire. »« T'es catholique ?» m'a-t-il demandé. « Non, j'aime bien les objets catholiques, c'est tout. »« J'ai été enfant de cœur », a-t-il répliqué, avec un grand sourire. « J'adorais manier l'encensoir. » J'étais contente qu'il ait sélectionné l'article qui avait mes faveurs, mais ça me peinait de voir partir le collier. Lorsque je l'ai emballé pour lui tendre, j'ai lâché sans réfléchir « Ne le donne à aucune autre fille que moi. » Immédiatement, j'ai été gênée, mais il s'est contenté de sourire. Promis. À la fin de ma première semaine, j'étais affamée et je n'avais toujours nulle part où aller. Je me suis mise à dormir dans la boutique, je me cachais dans les toilettes au moment où tout le monde partait et une fois que le veilleur de nuit avait verrouillé les portes, je dormais sur mon manteau. Le matin, je faisais comme si j'étais arrivée tôt. Je n'avais pas un copec. Je fouillais dans les poches des autres employés afin de récupérer des piécettes pour m'acheter des biscuits au beurre de cacahuète au distributeur. Démoralisée par la faim, c'est avec stupeur que je découvris qu'il n'y avait pas d'enveloppe pour moi le jour de paie. Je n'avais pas compris que la première semaine de salaire était retenue. Je suis retournée m'enfermer dans les toilettes, en larmes. Quand j'ai repris mon poste à la caisse, j'ai remarqué un type qui s'attardait en m'observant gauchement. Il avait une barbe, portait une chemise à rayures et une veste avec des coudes renforcés par une pièce de velours. Le responsable nous a présenté. C'était un auteur de science-fiction, il voulait m'inviter à dîner.
Malgré mes 20 ans, l'avertissement de ma mère ne va nulle part avec un inconnu. Senti dans ma conscience. Mais la perspective d'un dîner a eu raison de mes réticences et j'ai accepté. J'espérais que le type étant écrivain serait correct, même si l'on aurait plutôt dit un acteur déguisé en écrivain. Nous avons marché vers le sud jusqu'à un restaurant situé au pied de l'Empire State Building. Je n'avais jamais dîné dans un endroit chic à New York. J'ai essayé de choisir un truc pas trop cher et j'ai commandé de l'espadon. $5.95, le plat le moins cher sur la carte. Je revois encore le serveur disposer devant moi l'assiette garnie d'une grosse platée de purée avec un pavé d'espadon trop cuit. Malgré ma faim terrible, j'ai eu le plus grand mal à apprécier ce repas. J'étais mal à l'aise et je savais absolument pas comment gérer la situation ni pourquoi il voulait dîner avec moi. Je trouvais qu'il dépensait beaucoup d'argent pour moi et j'ai commencé à m'inquiéter sur ce qui allait attendre en retour. Après le repas, nous avons marché jusqu'au sud de Manhattan, une sacrée trotte. Nous avons pris à l'est pour rejoindre Tompkins Square et nous sommes assis sur un banc. Je ne cessais de chercher des prétextes pour fuir lorsqu'il a proposé de monter chez lui boire un verre. Ça y était. J'ai pensé, c'est l'instant crucial contre lequel ma mère m'avait mise en garde. J'ai jeté autour de moi des coups d'œil désespérés, incapables de répondre. J'ai vu approcher un jeune homme. C'était comme si un petit portail sur le futur s'était ouvert pour laisser sortir le garçon de Brooklyn qui avait choisi le collier persan. Telle une réponse à une prière adolescente. J'ai immédiatement reconnu ses jambes légèrement arquées et ses boucles folles. Il portait une salopette et un gilet à peau de mouton. Autour de son cou, des rangs de colliers de perles indiennes. Un jeune berger hippie. J'ai couru vers lui et lui ai pris le bras. « Salut, tu te souviens de moi ?»«
Bien sûr !»
Il a souri. « J'ai besoin d'aide. Tu veux bien faire semblant d'être mon mec ?» J'ai lâché d'une traite. « Bien sûr, » a-t-il répondu, comme si mon apparition soudaine ne le surprenait pas le moins du monde. Je l'ai traîné jusqu'aux fans de SF. « C'est mon copain !» j'ai dit sans reprendre ma respiration. « Il me cherchait, il est furieux, il veut que je rentre tout de suite. » Le type nous a jeté un regard interrogateur. « Cours !» j'ai crié. Le garçon m'a pris la main et nous nous sommes enfuis. Nous avons traversé le parc et sommes ressortis de l'autre côté. Hors d'haleine, nous nous sommes laissés tomber sur le perron d'un immeuble bas. « Merci, tu m'as sauvé la vie, » j'ai dit. Il a accueilli la nouvelle avec un air perplexe. « Je ne me suis jamais présentée. Je m'appelle Patty. Moi, c'est Bob. »« Bob, » j'ai dit, le regardant vraiment pour la première fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que t'as pas une tête à t'appeler Bob. Ça te dérange si je t'appelle Robert ?» Le soleil s'était couché sur l'avenue B. Il m'a pris la main et nous nous sommes promenés dans l'Est Village. Il a acheté un egg cream à James Spa, au coin de St. Mark's Place et de la 2e avenue. C'est moi qui faisais les frais de la conversation. Il se contentait de m'écouter en souriant. J'étais surprise de me sentir tellement à l'aise et en confiance avec lui. Il m'a avoué plus tard qu'il était en plein trip d'acide. J'avais une vision romantique des drogues et les considérais comme sacrées, réservées aux poètes, aux musiciens de jazz et aux rituels indiens. Robert ne semblait absolument pas altéré ou bizarre. Il dégageait un charme doux et espiègle, timide et protecteur. Nous avons marché jusqu'à 2h du matin et finalement, presque en même temps, nous nous sommes avoués que nous n'avions ni l'un ni l'autre un endroit où dormir. Ça nous a fait rire, mais il était tard et nous étions fatigués. « Je crois que j'ai une idée », a-t-il dit. Son ancien colocataire était en vacances. Je sais où il cache ses clés. Je ne pense pas que ça le gênerait. À l'intérieur, nous avons tous deux été subitement pris de timidité. Pas tant parce que nous nous retrouvions seuls ensemble que parce que nous nous trouvions chez quelqu'un d'autre. Robert s'est employé à me mettre mal à l'aise, puis, malgré l'heure tardive, il m'a demandé si j'aimerais voir ses travaux, qui étaient entreposés dans une pièce du fond. Il les a étalés sur le sol pour me les montrer. Il y avait des dessins, des gravures. Des énergies multiples rayonnaient des mots et des lignes calligraphiques entremêlées. Des champs d'énergie construits à partir de strates de mots, de peintures et des dessins qui semblaient émerger du subconscient. « Il y avait une série de disques qui entremêlaient les mots égo, amour et Dieu, fondus avec son propre nom. Il semblait produire un flux et un reflux sur ces surfaces planes. En les observant, je n'ai pu m'empêcher de lui parler des nuits de mon enfance quand je voyais des motifs circulaires irradier le plafond. Il a ouvert un livre sur l'art tantrique. « Comme ça ?» m'a-t-il demandé. « Oui. » J'ai reconnu avec stupéfaction les cercles célestes de mon enfance. Un mandala. J'ai été particulièrement émue par le dessin qu'il avait fait à la date du Memorial Day. Je n'avais jamais rien vu de quoi qui s'approche de ça. La date m'a frappée également, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, le jour précisément où je m'étais promis de faire quelque chose de ma vie devant la statue. Quand je lui ai raconté, il m'a répondu que le destin était le symbole de son propre engagement vis-à-vis de l'art, réalisé le jour même. Sans hésitation, il me l'a donné. Et j'ai compris. J'ai compris qu'en ce bref laps de temps, nous avions l'un comme l'autre renoncé à notre solitude pour faire place à la confiance. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous sommes restés ensemble, ne nous quittant que pour aller travailler. Pas un mot ne fut prononcé. Ce fut tout bonnement un accord tacite. Pendant les semaines suivantes, c'est la générosité des amis de Robert, en particulier Robert et Margaret Kennedy, chez qui nous avions passé notre première nuit, qui a assuré le gîte. Nous mettions de l'argent de côté. Chaque scène s'était destinée à prendre un appartement à chez nous. Je faisais des heures supplémentaires chez Prentatos et je sautais le déjeuner. Nos premiers rapports intimes ont révélé les fraîches cicatrices rouges qui me zébraient l'abdomen. Lentement, grâce à son soutien, j'ai réussi à vaincre ma gêne profonde vis-à-vis de mon corps. Dès que nous avions eu économisé assez d'argent, Robert s'est mis en quête d'un logement pour nous deux. Il a trouvé un appartement dans un immeuble en briques de deux étages dans une grue bordée d'arbres au coin de la station Myrte sur la ligne D. Robert m'avait promis qu'il allait en faire un nid douillet et, fidèle à sa parole, il s'est attelé aux travaux. Avant tout, il a lavé et frotté la poêle croûtée avec la laine de verre, il a ciré le plancher, lavé les vitres et blanchi les murs à la chaux. Nos quelques affaires étaient entassées au milieu de la pièce, nous dormions sur nos manteaux. Le soir désencombrant, nous sommes allés faire les poubelles, nous avons miraculeusement trouvé tout ce dont nous avions besoin. En venant à New York, j'avais apporté quelques crayons de couleur et une ardoise pour dessiner. J'avais dessiné une fille attablée devant des cartes retournées, une fille qui prédisait son propre avenir. C'était le seul dessin que j'avais montré à Robert. Il l'a beaucoup aimé. Il voulait que je découvre ce que ça faisait de travailler avec du bon papier et des crayons de qualité supérieure. Il m'a prêté son matériel. Nous travaillions côte à côte pendant des heures, dans un état de concentration mutuelle. Un jour de l'été indien, nous avons enfilé nos tenues préférées. Moi, mes sandales beatnik, mes foulards effilochés, Robert, ses perles multicolores et son gilet en peau de mouton. Nous nous approchions de la fontaine, l'épicentre de l'activité, lorsqu'un couple plus âgé s'est arrêté pour nous observer ostensiblement. Robert prenait plaisir à être remarqué et il m'a pressé affectueusement la main. « Oh, prends-les en photo !» a dit la femme à son mari un peu perplexe. « Je suis sûre que c'est des artistes. Peut-être qu'ils seront quelqu'un un jour. »« Arrête ton char, c'est rien que des gamins, » a-t-il répliqué dans un haussement d'épaule. Nous nous promenions la nuit. Parfois nous apercevions Vénus au-dessus de nos têtes. C'était l'étoile du berger, l'étoile de l'amour. Robert l'appelait notre étoile bleue. Il s'entraînait à faire le thé de Robert en forme d'étoile. Il signait en bleu pour que je n'oublie pas. Je commençais à le connaître. Il avait une confiance absolue en son travail et en moi, mais il se préoccupait constamment de notre avenir. Comment nous allions survivre, gagner de l'argent? Selon moi, nous étions trop jeunes pour ce genre de soucis. La liberté suffisait à me satisfaire. Mais j'avais beau faire de mon mieux pour enrayer ses inquiétudes, l'incertitude qui caractérisait l'aspect pratique de notre vie l'obsédait. Consciemment ou inconsciemment, il était en quête de lui-même. Il était à un stade précoce de sa métamorphose. Perle, sa salopette et son gilet en peau de mouton n'étaient pas seulement un costume, mais une expression de sa liberté. Nous ne pouvions pas nous payer l'entrée. Nous visitions des musées.
Nous avions tout juste assez d'argent pour un seul ticket, donc l'un d'entre nous entrait, regardait l'exposition et le racontait à l'autre. Lors d'une de ces sorties, nous sommes allés au Whitney Museum, qui avait ouvert assez récemment dans l'Upper East Side. C'était mon tour d'entrée, et à contre-cœur, j'ai pénétré sans lui dans l'enceinte de l'établissement. Je me rappelle pas de l'exposition, mais je me souviens très bien d'avoir jeté un coup d'œil par une des seules fenêtres trapézoïdales du musée et d'avoir vu Robert qui fumait une cigarette adossée à un parc-mètre. Il m'attendait. Nous nous dirigions vers le métro, il a dit « Un jour, nous entrerons ensemble et c'est nos œuvres qui seront exposées. » Le 4 novembre, Robert a eu 21 ans. Je lui ai offert une lourde gourmette en argent que j'avais dégotée sur un mont-de-piété sur la 42e rue. J'y avais fait graver les mots « Robert Paty, étoile bleue, l'étoile bleue de notre destin ». Robert s'est fait congédier de chez Brentados. Il a employé cette période de chômage à la transformation perpétuelle de notre espace de vie. Lorsqu'il a peint la cuisine, ça m'a tellement fait plaisir que je nous ai préparé un repas spécial. J'ai fait du couscous avec des anchois et des raisins secs. Et ma spécialité, une soupe de laitue. Ce mets exquis consistait en un bouillon de poulet garni de feuilles de laitue. Mais peu après, je me suis moi-même fait virer. J'avais omis de compter les taxes à un client chinois sur un Bouddha particulièrement cher. « Pourquoi devrais-je payer les taxes ?» avait-il dit. « Je ne suis pas américain. » Ne sachant que lui répondre, j'avais obtempéré. Ma décision m'avait coûté mon boulot, mais je partais sans regret. Ce qui m'était arrivé de mieux dans cet endroit, c'était le collier persan et la rencontre avec Robert qui, fidèle à sa parole, ne l'avait pas offert à une autre fille. Lors de notre première nuit ensemble sur Hall Street, il m'avait donné le collier adoré, enveloppé dans du papier de soie violet enrubanné de satin noir. Au fil des années, nous nous sommes repassés le collier à maintes reprises. Sa possession dépendait de qui en avait le plus besoin. Notre sens de l'engagement réciproque se manifestait dans moult petits jeux. Le plus inébranlable s'appelait le jour 1, jour 2. Le principe, c'était simplement que l'un d'entre nous devait toujours être vigilant et tenir le rôle de protecteur désigné. Si Robert prenait une drogue, je devais être présente et consciente. Si j'étais déprimée, il devait tenir la barre. Si l'un était malade, l'autre devait être en bonne santé. Il était essentiel que nous nous laissions jamais aller le même jour. Le soir du Nouvel An, notre premier ensemble, nous avons pris de nouvelles résolutions. Robert a décidé qu'il fallait faire une demande de bourse et retourner à Pratt, pas afin d'étudier l'art publicitaire comme le voulait son père, mais pour consacrer son énergie à l'art tout court. Il m'a écrit un mot dans lequel il me promettait que nous allions créer ensemble et que nous allions réussir, avec ou sans le concours du reste du monde. Il me fallait un boulot. Mon amie Janet s'était fait engager à la librairie Scribner's. Elle a trouvé le moyen de me tendre une main secourable et de partager avec moi sa bonne fortune. Elle a parlé à ses supérieurs et ils m'ont offert un poste. Pour moi, ça ressemblait à un boulot rêvé, travailler dans la boutique de la prestigieuse maison d'édition qui avait abrité des écrivains tels qu'Hemingway et Fitzgerald, et leur éditeur, le grand Maxwell Perkins, là où les Rothschilds achetaient leurs livres, où des tableaux de Maxfield Parrish étaient accrochés dans l'escalier. Robert était de plus en plus déprimé. Ses journées de travail étaient longues et il était moins bien payé que lorsqu'il travaillait à temps partiel chez Brentano's. Quand il rentrait, il était épuisé et découragé, et pendant un moment, il a arrêté de créer. Je l'ai imploré de démissionner. Le boulot et son salaire de misère ne valaient pas le sacrifice. Après des nuits de discussion, il a accepté à contre-cœur. En échange, il s'est mis à travailler avec diligence. Il avait toujours hâte de me montrer ce qu'il avait réalisé pendant que j'étais chez Scribner's. Cela ne me dérangeait pas de rapporter l'argent du ménage. J'étais plus solide que lui. Je pouvais encore créer la nuit et j'étais fière de lui offrir une situation qui lui permettait de s'adonner sans compromission à son heure. Nous n'avions pas d'argent pour aller voir des concerts, mais avant de quitter le Fillmore, Robert m'a dégoûté des invites pour les Doors. Avec Janet, nous avions dévoré leur premier album et je me sentais presque coupable de les voir sans elle. Mais en regardant Jim Morrison, j'ai eu une réaction étrange. Tout le monde autour de moi semblait cloué. Mais moi, j'observais le moindre de ses mouvements dans un état d'hyperconscience froide. Je me souviens de cette impression bien plus nettement que du concert. J'ai senti, en voyant James Morrison, que j'étais capable d'en faire autant. Je ne saurais dire ce qui m'a fait penser à ça. Rien, dans mon expérience, ne me permettait de me dire que ce serait jamais possible. Pourtant, j'ai nourri cette prétention. J'ai ressenti à son égard à la fois de l'attrait et un certain mépris. Je sentais sa gêne profonde aussi bien que sa suprême assurance. Tel un Saint-Sébastien de la côte ouest, il exultait un mélange de beauté et de mépris de soi et une douleur mystique. Quand on m'a demandé par la suite comment étaient les Doors sur scène, je me suis contentée de répondre qu'ils étaient formidables. J'avais un peu honte de la réaction que leur concert avait déclenchée chez moi. Ce printemps-là, quelques jours à peine avant les Rameaux, Martin Luther King s'est fait abattre au Lorraine Hotel à Memphis. J'ai essayé d'exprimer mes sentiments dans un dessin ou un poème, mais j'en ai été incapable. On aurait cru que chaque fois que je voulais exprimer l'injustice, les mots justes me fuyaient inexorablement. J'étais assez indépendante de mes parents. Je les aimais, mais je me souciais guère de ce qu'ils pouvaient penser de ma vie avec Robert. Robert n'avait pas cette liberté. Il était toujours le bon fils de famille catholique, incapable de leur avouer que nous vivions ensemble hors des liens sacrés du mariage. Reçu chaleureusement dans la maison de mes parents, il craignait que les siens ne fassent pas bon accueil. Au départ, Robert a pensé qu'il valait mieux qu'il m'introduise lentement dans ses conversations téléphoniques avec ses parents. Puis il a décidé de leur dire que nous avions fait une escapade à Aruba pour nous marier. Un de ses amis se rendait aux Caraïbes, Robert écrirait une lettre à sa mère et l'autre la posterait d'Aruba. Je jugeais inutile cette supercherie compliquée. Selon moi, il aurait dû leur dire simplement la vérité. J'étais persuadée qu'il finirait par nous accepter tels que nous étions. « Non, répétait-il avec désespoir, ce sont des catholiques stricts. Ce n'est que le jour où nous leur avons rendu visite que j'ai saisi l'objet de son inquiétude. Son père nous a accueillis dans un silence glacial. Je ne pouvais pas comprendre un homme qui n'acceptait pas son fils. Toute la famille était groupée autour de la table de la salle à manger. Sa sœur et son frère aîné avec leur conjoint et ses quatre plus jeunes frères et sœurs. La table était mise, tout était en place pour un repas parfait. » Son père m'a à peine regardé et n'a rien dit à Robert sauf « Va te faire couper les cheveux, tu as l'air d'une fille. » Joanne, la mère de Robert, a fait de son mieux pour nous manifester un peu de chaleur. Après dîner, elle a sorti un peu d'argent de la poche de son tablier et l'a glissé à Robert, puis m'a emmenée dans sa chambre où elle a ouvert sa boîte à bijoux. Elle a regardé ma main et a sorti un anneau en or. « Nous n'avions pas assez d'argent pour une bague, j'ai dit. » « Porte-la à ton annuaire gauche, m'a-t-elle dit, en refermant ma main sur la bague. » Robert a troqué son gilet en peau de mouton et ses perles contre un uniforme de marin. Il n'aimait pas spécialement la mer. Dans son costume et sa casquette de marin, il évoquait Robert Querel de Genet, dessiné par Cocteau. La guerre ne l'intéressait nullement, mais les reliques et les rituels de guerre l'attiraient. Il admirait la beauté stoïque des pilotes kamikazes japonais qui faisaient don de leurs vêtements, chemises méticuleusement pliées, foulards de soie blanche, avant la bataille. J'aimais participer à ses fascinations. Je lui ai trouvé un caban et un foulard de pilote de soie. Même si ma perception de la Seconde Guerre mondiale était filtrée par le souvenir de la bombe et du journal d'Anne Frank, je reconnaissais l'existence de son univers, tout comme il entrait de bonne grâce dans le mien. Par moments, cependant, ces transformations soudaines me déconcertaient et même me bouleversaient. Lorsqu'il a recouvert de cellophane les murs et le médaillon de plafond de notre chambre, je me suis sentie rejetée, car il était visible qu'il s'agissait plutôt pour lui, de lui, que de moi. Il espérait que ce serait excitant, mais je n'y voyais qu'un miroir déformant. Le démantèlement de la chapelle romantique dans laquelle nous dormions m'a beaucoup chagrinée. Il était déçu que ça ne me plaise pas. « Qu'est-ce que tu t'imaginais ?» je lui ai demandé. « Je ne m'imagine rien, » a-t-il insisté. « Je ressens les choses. » Il était gentil avec moi, mais je voyais bien qu'il était ailleurs. Je le connaissais peu bavard, mais je n'avais pas l'habitude de ses ruminations silencieuses. Quelque chose le tracassait, qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il n'a jamais cessé de me témoigner son affection, mais quelque chose ne tournait pas rond, c'était flagrant. J'ai remarqué que la nuit, il n'y avait pas de musique. Il se fermait à moi et arpentait l'appartement distrait sans mener pleinement son travail à bien. Des montagnes à demi terminées de freaks, de saints et de marins jonchaient le sol. Cela ne lui ressemblait pas de laisser ses œuvres dans cet état. Il m'avait toujours réprimandée sur ce point. Je me sentais impuissante à pénétrer dans les ténèbres stoïques qui l'enveloppaient. Est arrivé un moment où l'esthétique de Robert est devenue si dévorante que j'ai été gagnée par l'impression qu'il ne s'agissait plus de notre univers, mais du sien. Assoiffée de contact comme j'étais, je me suis tournée vers lui. J'ai pris l'habitude de lui rendre fréquemment visite en rentrant du travail. Oh oui, comme on l'appelait. Parlait bien, il était passionné, cultivé et engagé politiquement. C'était un soulagement de pouvoir discuter de tous les sujets de Nietzsche à Godard avec quelqu'un. J'admirais son travail et je me réjouissais des affinités que nous révélaient ses visites. Mais au bout d'un moment, je n'ai pas été d'une franchise limpide avec Robert sur la nature de notre intimité croissante. Avec le recul, l'été 1968 a correspondu pour Robert et pour moi à un temps d'éveil physique. Je n'avais pas encore deviné que le comportement contradictoire de Robert prenait sa source dans sa sexualité. Je savais qu'il tenait profondément à moi, mais l'idée m'a traversée qu'il s'était lassé de moi physiquement. Par certains côtés, je me sentais trahie, mais en réalité, c'est moi qui l'ai trahie. J'ai déserté notre petit nid de Hall Street. Robert a été anéanti, mais il ne pouvait toujours offrir aucune explication au silence qui nous avait engloutis. Me défaire du monde que Robert et moi partagions n'allait pas sans peine. Je ne savais pas trop où aller. Aussi, lorsque Janet m'a proposé de partager un 6e étage sans ascenseur dans le Lower East Side, j'ai sauté sur l'occasion. Cet arrangement, bien que douloureux pour Robert, était un moindre mal. Ça valait mieux que de m'installer seule, ou avec Owie. Incapable de briser nos liens, Robert et moi continuions à nous voir. Au moment même où ma relation avec Owie connaissait des hauts et des bas, il me suppliait de revenir. Il voulait qu'on se remette ensemble, comme si rien ne s'était passé. Il était prêt à me pardonner, mais je n'éprouvais aucun repentir. Je ne voulais pas revenir en arrière, d'autant que Robert semblait toujours être la proie d'une tempête intérieure qu'il refusait de nommer. Début septembre, sans crier gare, Robert s'est présenté chez Scribner's. Vêtu d'un long trench coat en cuir sang de bœuf taillé à la taille, il était magnifique et visiblement perdu. Il était retourné à Pratt et avait sollicité une bourse. Il avait employé une partie de l'argent pour acheter un trench coat et un billet pour San Francisco. « Il voulait me parler », a-t-il dit. Nous sommes sortis nous planter au coin de la 48e rue et de la 5e avenue. « Reviens s'il te plaît », a-t-il dit. « Reviens, sinon je vais partir à San Francisco. » Je ne voyais pas du tout ce qu'il irait faire là-bas. Son explication était décousue, vague. Liberty Street, il y avait quelqu'un qui connaissait tous les ficelles, un squat sur Castro. Il m'a pris la main. « Viens avec moi là-bas. C'est la liberté. Il faut que je découvre qui je suis. » Tout ce que je connaissais de San Francisco, c'était le grand tremblement de terre et Haight Ashbury. « Je suis déjà libre, » j'ai répliqué. Il a fixé sur moi un regard d'une intensité éperdue. « Si tu ne viens pas, je vais finir avec un mec. Je vais devenir homosexuel, » m'a-t-il averti. Je lui ai jeté un regard vide, sans comprendre. Rien de notre relation ne m'avait préparé à une telle révélation. Tous les signaux dont il m'avait fait part de manière détournée, je les avais interprétés comme l'évolution de son art, pas de sa personnalité. Je n'ai fait preuve d'aucune compassion, ce que j'ai regretté par la suite. À regarder ses yeux, on pouvait croire qu'il avait travaillé toute la nuit sous speed, sans rien ajouter. Il m'a tendu une enveloppe. Je l'ai regardé s'éloigner et se perdre dans la foule. J'ouvre des portes. « Je ferme des portes », écrivait-il. Il n'aimait personne. Il aimait tout le monde. Il aimait le sexe, il détestait le sexe. La vie est un mensonge, la vérité est un mensonge. Ses pensées se terminaient sur une blessure en train de guérir. « Je me tiens nue quand je dessine. Dieu me tient la main et nous chantons ensemble. » Son manifeste d'artiste. J'ai laissé se dissiper ce qui ressemblait à une confession et j'ai accepté ces mots comme une hostie à la communion. Il avait jeté la ligne qui allait me séduire, nous lier, en fin de compte, l'un à l'autre. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait suivre. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Que va-t-il advenir de nous? Telles étaient nos jeunes questions et de jeunes réponses nous furent révélées. Cela nous mène l'un à l'autre. Nous devenons nous-mêmes. Nous sommes promis de ne plus jamais nous quitter tant que nous ne serions pas tous les deux certains d'être capables de voler de notre propre aile. Et ce serment, à travers tout ce qui nous restait encore à traverser, nous l'avons respecté. Au Chelsea Hotel. Je n'étais pas complètement sûre d'avoir de quoi payer. Merci encore pour votre écoute, ce petit moment suspendu dans le temps. Je suis seule à m'adresser à vous aujourd'hui, mais je vous garantis, grâce à tous les mails que nous nous envoyons, que toute l'équipe du Théâtre de la Gamelle vous envoie leurs plus belles pensées et notre désir d'encore faire vivre notre culture sur les ondes. Je vous souhaite une belle fin de vendredi, un excellent week-end et une semaine pleine d'évasion. Vous retrouverez le Théâtre de la Gamelle vendredi prochain de 13h à 14h sur Radio Canu 102.2.
Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.